France Inter,
franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, les premiers chrétiens. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Évangile de Marc. ...2000 ans d'histoire. Depuis la mort de Jésus jusqu'à la conversion de Constantin, il n'aura fallu que 3 siècles pour que le christianisme devienne la religion d'un immense empire qui allait de l'Écosse à l'Égypte et de l'Atlantique à la mer Noire. 3 siècles pendant lesquels les premiers chrétiens ont organisé leur église, défini ses dogmes et sa liturgie, lutter contre les premières hérésies et pratiquer leur religion clandestinement pour échapper aux persécutions. Car c'est aussi sur le sang de ces martyrs que s'est construite une église qui compte aujourd'hui plus d'1 milliard de fidèles. Mais ils n'étaient qu'une poignée quand, il y a 2000 ans, juste avant l'ascension, Jésus demandait aux 12 apôtres de fonder une religion nouvelle.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés.
Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée.
Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour. Jusqu'à la fin des temps. C'est le début. Et tout commence.
Jean-Pierre Moisset, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux 3 et auteur d'une histoire du catholicisme. Une église dont on dit souvent, comme on vient de l'entendre d'ailleurs dans ce film, qu'elle est née au moment de l'ascension, quand Jésus a dispersé les apôtres dans le monde entier pour prêcher une nouvelle religion. Est-ce que c'est ça l'ascension, le début du christianisme ?
Très difficile de répondre à cette question, mais je vais quand même essayer, tâcher de le faire, et puis revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure pour commencer votre propos. Est-ce que c'est le début du christianisme ? Est-ce que Jésus a voulu lui-même fonder le christianisme, c'est-à-dire fonder une nouvelle religion ?
Vous dites que non. Hein.
Non, ce n'est pas très satisfaisant. Il a pensé son action à l'intérieur du judaïsme. Il a annoncé le royaume, la proximité du royaume. Il s'est situé dans un cadre qui était le cadre juif, qu'il avait reçu en héritage de par sa famille et de par son appartenance nationale. Le point de départ, quel est le point de départ ? Peut-être que c'est l'acte de foi de quelques personnes devant le tombeau vide. À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose de radicalement neuf. Un jour qui est, pense-t-on, le 7 avril de l'an 30, d'après les calculs des exégètes. Mais lui-même... fonde-t-il le christianisme ? Ce n'est pas très satisfaisant
oui, vous
de
dites,
le considérer.
Vous dites qu'il a toujours vécu, prêché et agi en tant que juif sans jamais chercher à sortir du judaïsme. Et c'est vrai qu'au fond, c'est la matrice, le judaïsme. Et oui. Le catholicisme mettra du temps à s'en détacher, à s'en séparer.
Oui, oui, oui. Lui-même d'ailleurs n'a rien écrit. Il n'a rien décrit, il n'a pas livré un message codifié. Il n'a laissé derrière lui qu'une organisation... embryonnaire avec les disciples, les 12. Mais il y a des personnes qui, après la découverte du tombeau ouvert, ont considéré que Jésus n'était pas simplement l'homme de Nazareth, mais qu'il était aussi le Messie annoncé par les prophètes. Donc petit à petit, et c'est vrai, à partir de l'Ascension et surtout de la Pentecôte,
Le jour où l'Esprit Saint descend sur les apôtres.
Voilà, les apôtres partent en mission, l'Église commence. Alors, c'est plutôt, je dirais plutôt que l'Église, oui, l'Église commence vraiment à ce moment-là. et le christianisme va se construire.
Alors ça, il va se construire au sein, puis bientôt contre la religion dont il est issu, le judaïsme, qui voit d'un plus ou moins bon œil ce qui n'est au fond qu'une branche du judaïsme, on dirait même peut-être une secte, hein, compte tenu du nombre de ses membres. Alors il y en a certains juifs qui le considèrent avec bienveillance, même s'ils ne sont pas ou ne se déclarent pas ou ne se déclareront pas chrétiens. Je pense à un pharisien, Gamaliel, qui disait « Ne vous occupez donc plus de ces gens-là, laissez-les aller. Si c'est des hommes que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas la faire disparaître, n'allez pas risquer de vous retrouver en guerre avec Dieu. » Donc, au sein de ce judaïsme, il n'est pas nécessairement vu de ce qui deviendra, parce que son nom n'existe pas encore, le christianisme. En revanche, il y en a d'autres qui s'en méfient. Et il faut rappeler quand même, vous le rappelez, Jean-Pierre Moisset, que le premier martyr n'a pas été lapidé par des Romains ou crucifié par des Romains, c'est par des Juifs, c'est Étienne.
Tout à fait. Alors on peut considérer, je reviens à ce que vous disiez initialement, que le christianisme est une secte. Ernest Renan disait que c'est une secte qui a réussi. Une secte, si on se débarrasse de la connotation péjorative du mot, hein, donc on en retient simplement une branche. Dans un judaïsme divers, il y a les zélotes, il y a les sadducéens, les pharisiens, les esséniens. Et puis il y a cette mouvance nouvelle qui naît autour de Jésus et qui déplaît à un certain nombre de juifs. Il faut dire que le message a de quoi chambouler les esprits, et puis l'homme est quand même un peu provocateur. Et après sa mort, un certain nombre de judéo-chrétiens, comme on dit, hein, et le mot est significatif, vont effectivement avoir des démêlés avec les autorités juives. Et Étienne est appelé communément dans le christianisme le proto-martyr, le premier martyr. Effectivement, il a été lapidé, lynché, dirait-on, dès les années 30.
Parce qu'il contestait la sacralité du temple en disant que Dieu ne pouvait pas vivre dans un endroit qui a été construit par les hommes. Alors, évidemment, ça a scandalisé un certain nombre de juifs. Il a été lapidé, donc Étienne, et sous les yeux d'un des pires adversaires des premiers chrétiens, Saül, et qui, après s'être converti sur le chemin de Damas, deviendra pourtant un des artisans les plus importants de l'expansion du christianisme.
J'étais le plus endurci des pécheurs. J'exécutais quiconque enfreignait la loi de Moïse, parce que je croyais accomplir la volonté de Dieu. Il advint que le grand prêtre de Jérusalem me demanda d'aller à Damas afin de châtier cette ville. Et sur le chemin de Damas, en approchant de la ville, au milieu de la journée, je fus terrassé par une lueur éclatante qui me rendit aveugle. Et j'entendis une voix qui disait « Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Qui es-tu » répondis-je. Et la voix dit « Jésus, c'est lui, Jésus, qui m'a montré la vérité. Et j'ouvris enfin les yeux, ensuite je fus baptisé et pris le nom de Paul. Aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu s'ouvre largement en chacun de nous, à toute l'humanité. »
Et c'était un extrait de la dernière tentation du Christ, la conversion de Paul, qui va étendre le christianisme, pardon, bien au-delà du monde juif. Ça aussi, c'est nouveau. Il va devenir, grâce à Paul en partie, universel. D'ailleurs, catholicos, vous le rappelez, Jean-Pierre Moisset, c'est justement, ça veut dire en grec universel. Mais ça, c'est nouveau. Le judaïsme n'était pas aussi prosélyte. En fait, il est réservé au peuple élu. Là, avec Paul, on va très au-delà.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des très grandes différences, une des grandes nouveautés qu'apporte le christianisme, qui est effectivement universel, alors que le judaïsme avait un caractère national. Et Paul, de ce point de vue, est celui qui est à l'origine, si vous voulez, de ce grand basculement vers le monde habité, hein, d'une manière générale. Il propose d'intégrer les païens. Et non pas simplement les juifs, mais les païens, les incirconcis, comme on disait, avec une nuance de mépris, mais qui dans sa bouche, dans celle de Paul, va disparaître. Et la bonne nouvelle va être adressée à tous, païens, juifs, tous les hommes sont appelés à mettre leurs pas dans ceux de Jésus.
Ce que conteste d'ailleurs un certain nombre des premiers chrétiens et même des apôtres. Il y a eu des démêlés entre Paul et Pierre qui n'étaient pas d'accord justement sur le fait de baptiser des non-circoncis, qu'on appelait aussi les gentils, les non-juifs, quoi.
Oui, tout à fait. On peut dire que c'est un des grands débats, un des débats principaux, qui aujourd'hui peut paraître un petit peu dérisoire ou d'une certaine façon, mais à l'époque, il est certain que c'est l'une des pierres d'achoppement de l'Église, disons de la première génération des chrétiens. Faut-il s'adresser à tous ou au contraire réserver cette bonne nouvelle, ce message aux Juifs?
Alors, cette universalité va permettre au christianisme de s'étendre dans tout le monde romain, d'autant plus qu'un certain nombre de ces premiers chrétiens sont chassés de Jérusalem. J'étais frappé aussi d'apprendre, Jean-Pierre Moisset, que parmi les premières communautés, eh bien, il y en avait qui étaient plus importantes encore que Rome, qui deviendra la capitale au fond du christianisme plus tard. Par exemple, Antioche, Alexandrie. Qu'est-ce qui fait que ces villes aient pu voir se développer des communautés de chrétiens aussi importantes?
Alors, on a une représentation aujourd'hui qui est un peu fausse du christianisme, parce que l'émergence de l'islam au 7e siècle est un islam qui a submergé la rive méridionale du bassin méditerranéen et aussi une partie de l'Orient, fait qu'on a perdu le contact avec cette naissance qui est avant tout orientale. Alexandrie, Antioche, ce sont des grandes villes de l'Orient méditerranéen. Et Rome n'intervient que plus tard. Et aujourd'hui, le christianisme est surtout présent en Europe, et puis hors d'Europe, bien sûr, en Amérique, par exemple. Mais à l'origine, c'est une religion orientale. Et donc, il est tout à fait logique que les grandes communautés soient des communautés au départ d'Asie mineure, de Syrie, et puis de Grèce, de Macédoine, et plus tard simplement d'Occident. Mais c'est une religion qui naît dans le bassin oriental de la Méditerranée.
Cela dit, il y a une communauté à Rome assez importante dès le début, lorsque justement, quand Pierre y arrive, elle existe déjà, quand Pierre y arrive au milieu du 1er siècle.
Celui que nous attendions avec tant d'impatience est enfin parmi nous, mes frères. Il est venu pour nous de Jérusalem, l'humble pêcheur Simon, que l'on nomme Pierre, le premier apôtre de notre Seigneur.
Obéissez à ceux qui vous gouvernent et aux lois par lesquelles ils gouvernent. Jamais ne recourez à la violence contre eux. Selon les mots de Jésus, je vous dirai encore, si quelqu'un en vient à te frapper la joue droite, tends-lui également la joue gauche. Aime ton prochain comme toi-même. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh, ayez foi en lui, mes frères. Au nom de Jésus-Christ, endurez la souffrance afin que sa bénédiction puisse s'étendre sur vous et vos familles jusqu'à la consommation des siècles. Amen.
Amen. Alors le message que Pierre et les autres apôtres d'ailleurs apportent dans les villes, dans les communautés où ils passent, ce n'est jamais que celui finalement des commandements de Moïse, entre autres. Et il est révolutionnaire pourtant. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans le monde romain, Jean-Pierre Moisset?
Il apporte un renversement de perspective pour les Juifs. Hein, c'est-à-dire que la loi de Moïse, les commandements sont désormais en quelque sorte subordonnés, dépassés par le nouveau commandement d'amour, qui est l'exigence première que Jésus fait passer à ses disciples, à ceux qui le suivent. Il en résulte donc une baisse, au moins à l'origine, hein, du formalisme religieux, un renversement de perspective aussi à de multiples égards, par exemple une valorisation des personnes modestes, des humbles dans la société de l'époque. Et puis il y a quand même cette nouveauté théologique extraordinaire et qui a du mal à passer auprès de beaucoup de Romains, qui est la résurrection quand même.
Mais dans ces conditions, comment expliquer le succès? Parce qu'en plus, ils prêchent une vie austère à laquelle les Romains n'étaient pas habitués. Leur Dieu ne leur imposait pas des sacrifices comme le leur demande le christianisme. Comment expliquer que ce succès ait pu être aussi rapide? Parce que très vite, on voit se multiplier les communautés chrétiennes.
C'est vrai que le christianisme ne semblait pas forcément très bien parti, puisque Jésus meurt, c'est a priori un échec, que son passage sur terre. Ce que prêchent ses disciples paraît irrationnel aux Romains. Jésus lui-même n'était pas une espèce de nationaliste juif avant la lettre, donc ceux qui attendaient une libération temporelle en étaient pour leurs frais, voilà, pour les juifs. Oui. Voilà. Donc il y avait beaucoup de, on pourrait dire, de handicap, mais il y avait aussi tout de même des atouts qui n'étaient pas négligeables. D'abord, il y avait un climat spirituel, dirait-on, apocalyptique dans le judaïsme antique, c'est-à-dire que ces juifs étaient orientés vers la fin des temps, vers l'arrivée d'un Messie. Et Jésus n'était pas d'ailleurs le seul à prêcher de manière itinérante comme il l'a fait. Donc il y a une attente chez les juifs. Il y a une attente aussi dans les populations païennes, hein, qui, on le voit, étaient intéressées par des cultes orientaux, par exemple. Et puis, il y a ce dépôt de l'hellénisme sur la culture antique qui ouvre un vaste horizon de communication au christianisme naissant dans toute la diaspora et au-delà, dans tout le monde gréco-romain. Et je dirais que le judaïsme était quand même un peu dynamique, lui aussi, dans l'Antiquité. Pas tellement, mais un petit peu dynamique. Mais il était freiné par des handicaps beaucoup plus sérieux, lui. Et notamment la circoncision, qui avait quelque chose de rebutant.
Oui, tandis que là, il n'est pas nécessaire d'être circoncis pour être chrétien. Et c'est ce qui peut évidemment attirer les païens. Alors, il a aussi du succès parce que c'est un message universel, parce que, vous le dites, parce que, également, il ne conteste pas le pouvoir établi. Et pourtant, il le dérange et il contraint les premiers chrétiens à pratiquer leur religion dans la clandestinité.
Par les dieux, ils ne s'expriment même pas comme des Romains.
C'est une secte secrète. Elle est composée de Juifs, de Grecs et de beaucoup d'autres. Ils se réunissent en cachette et répandent leurs superstitions parmi les Romains.
Jésus, Lord, sweet Jésus.
Vois comme ils se rassemblent, Seigneur, en cachette, ainsi que des voleurs et d'affreux assassins.
Je te baptise au très saint nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit sur toi.
Que fait-il à présent?
Ils appellent cela le baptême, un horrible bain d'eau mêlé de sang.
Alors le premier christianisme, Jean-Pierre Moisset, il est clandestin, il se cache, il est persécuté, nous le verrons, mais il se pratique dans ce qu'on appelle les catacombes aussi, mais c'est déjà une église, ça veut dire assemblée, hein, je crois, église, et alors il se rassemble chez des particuliers, il n'y a pas encore d'église au sens où on l'entend aujourd'hui, Jean-Pierre Moisset. Se pratique comment, où?
Initialement, il se pratique chez des particuliers qui accueillent la communauté locale et qui partagent le pain selon ce que Jésus a recommandé de faire. Oui. Voilà. Et puis simplement, dans un deuxième temps, il va y avoir des lieux de culte qui vont être édifiés, mais ça mettra un certain temps à se produire. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que la situation est parfois tendue, qu'il n'est pas facile de pratiquer au grand jour, notamment au deuxième siècle, quand les choses commencent à se dégrader. Je ne veux pas anticiper. Mais effectivement, ça se fait un petit peu à la sauvette dans les origines.
Et en même temps, il commence à s'organiser, il commence à établir une hiérarchie, parce qu'il y avait les 12 apôtres, mais il est évident que pour une communauté qui s'élargit, les 12 apôtres ne suffisent plus, et c'est là qu'apparaissent les premiers, au fond, évêques, ça s'appelait les épiscopes, je crois, hein, c'est ça?
Voilà. Alors, le groupe des 12, effectivement, le groupe initial, c'est un groupe qui a été choisi de manière symbolique, ce sont les 12 tribus d'Israël en miniature, si on veut. Et l'Église, qui s'est développée jusqu'à nos jours, s'est toujours référée, a puisé sa légitimité en se référant à ces 12, à travers un mécanisme qu'elle appelle la succession apostolique. Et donc des évêques, petit à petit, ont émergé, mais ça s'est fait lentement au cours du 1er siècle, par exemple. Les tâches à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler le clergé sont peu différenciées. Il y a des diacres, il y a des anciens, comme on dit, qu'on va appeler plus tard les clercs.
Les presbytres,
les
futurs prêtres.
Voilà.
Qui donnera le nom de presbytère, d'ailleurs.
Voilà. Ou presbytre pour ceux qui, les personnes âgées qui ont un peu de mal à lire et qui sont anciennes. Et puis, il y a des évêques, mais les fonctions initialement sont peu différenciées. Il y a des diacres aussi, il y a différentes fonctions, mais c'est surtout à partir du IIe siècle, vraiment, qu'on peut commencer à distinguer, surtout dans certaines églises comme celle de Rome, en fonction des documents qu'on a, qui sont très lacunaires, qu'on peut distinguer vraiment des fonctions cléricales de manière assez nette.
Alors ça, dans des églises qui sont très éparpillées autour du monde méditerranéen, et alors c'est assez naturel, ces communautés sont très éloignées les unes des autres, les voyages, c'est évidemment pas aussi facile qu'aujourd'hui, et ça favorise évidemment, et ça c'est curieux parce que c'est dès la naissance, les premiers particularismes locaux, on ne prie pas, on ne pratique pas la religion de la même manière à Antioche et à Alexandrie ou à Rome, et ça va favoriser les toutes premières hérésies, Jean-Pierre Moisset.
Oui. Il ne faut pas projeter sur les origines ce que nous savons aujourd'hui. Il y a un dogme constitué à travers, au moins pour le catholicisme, des conciles, etc. Mais à l'origine, il y a un foisonnement chrétien. Le christianisme est quelque chose de pluriel. Il y a différentes interprétations qui mettent l'accent sur la rigueur, par exemple, de la vie personnelle, ou bien sur la proximité avec le judaïsme. Il y a différentes manières d'interpréter le message chrétien. Il y a un christianisme pluriel qui se développe à l'origine, et petit à petit, l'une de ces branches va dominer, va s'imposer, et va qualifier d'hérétique. D'hérétiques, les choix, puisque c'est ce que le mot hérésie veut dire au départ, les choix qu'elle réprouve à partir du deuxième siècle, du milieu du deuxième siècle.
Un christianisme divisé, christianisme aussi qui est persécuté et qui le restera pendant 3 siècles par des empereurs romains, très inquiets de son essor et de son message qui ébranle les fondements de la société romaine.
Il n'y a plus de maître, ni d'esclaves. Bravo, Fabien. Nous sommes tous égaux, disent les chrétiens.
Pire, ils disent que les maîtres sont des scélérats ou des fils de scélérats.
Ils ont raison.
Pire encore, ils disent que les derniers seront les premiers, les serviteurs au-dessus des maîtres.
Le préfet du ravitaillement, le ministre de Maxence, a dû traiter d'égal à égal, avec un quelconque soldat.
Parce qu'il était chrétien ?
Parce que l'air qu'on respire est devenu chrétien. Mais peut-être même ici, peut-être même parmi nous, il se trouve des chrétiens, ils sont partout.
Combien t'on fait de persécutions jusqu'ici? 7. Combien étaient les chrétiens au moment de la première? 200 000. Combien sont-ils aujourd'hui? 20 fois plus. Il n'est pas difficile de conclure.
Mais cette fois, il faut arracher jusqu'aux racines. Extirper tout. Tous.
Alors tous, jusqu'au dernier. Parce que s'il en reste un seul, gare à vous.
Et l'on entend un chant de l'an 1000 de Fulbert de Chartres, qui est un chant consacré aux martyrs. Les débuts du christianisme ont été des années de persécution. Les premiers chrétiens ont été des martyrs. On peut se demander pourquoi, Jean-Pierre Moisset, parce qu'on l'a entendu dans un extrait de film, mais c'est réel, c'est dans la réalité. En rien, Jésus n'a jamais menacé le pouvoir en place. Il a toujours distingué le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il n'y a pas de menace sur le pouvoir politique à proprement parler, le pouvoir des empereurs.
Tout à fait. On pourrait aussi ajouter une autre formule qui est très belle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mmh.
Et pourtant, donc il ménage le pouvoir en place.
Tout à fait. Et les apôtres sont respectueux du pouvoir en place. Paul, par exemple. Mais le christianisme pose un problème qui va se manifester finalement assez rapidement, c'est que ses adeptes refusent de participer aux cérémonies de la religion romaine. Or, la religion romaine, contrairement aux religions d'aujourd'hui, est une religion qui a une dimension civique, une dimension politique extrêmement forte. Par conséquent, ceux qui ne participent pas à ce culte sont suspects de déloyauté envers le pouvoir, suspects d'être de mauvais citoyens, des espèces d'ennemis de l'intérieur qui ne vont pas permettre à la cité de mettre les dieux de son côté. Et il faut ajouter à ceci que certains refusent d'exercer les magistratures civiles parce qu'il faut faire aussi des sacrifices, là encore, païens. D'autres refusent d'intégrer l'armée, par exemple, en raison d'une objection de conscience. Donc il y a de multiples aspects sociaux, politiques.
Donc ils ébranlent la société, sinon le pouvoir, ce qui revient au même pour les empereurs. Il y a aussi le fait qu'ils sont des boucs émissaires. Les premiers martyrs importants, les premières grandes persécutions, c'est Néron en 64, parce que, évidemment, les chrétiens seraient responsables, ils cherchent justement des responsables du fameux incendie qu'il a lui-même provoqué. Alors, tous les empereurs ensuite persécuteront plus ou moins gravement les chrétiens. Il y aura après Néron, Domitien, Trajan, Marc Aurèle, Septime Sévère, Dèce, hein, dont les persécutions ont été les pires qu'aient connues les chrétiens en 250. Il y aura quand même 40 ans de répit entre 260 et 302, puis ça va reprendre encore jusqu'à ce que... alors, d'abord, ça n'a servi à rien, on a le sentiment, parce que ça n'a fait que accroître le nombre des convertis. C'est Tertullien, qui était un Romain, qui s'est converti d'ailleurs, et qui disait « Le sang des chrétiens est une semence. »
Est une semence, voilà. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Ouais. Hein, effectivement, ces hommes et ces femmes qui réussissent à défier l'autorité romaine interpellent, comme on dirait aujourd'hui, les consciences des Romains, et on cherche à savoir ce qu'ils ont de plus. Du moins, c'est ce que dit Tertullien.
Alors, tout ça va s'arrêter avec Constantin, qui va d'abord autoriser la pratique du christianisme dans l'Empire par l'édit de Milan en 313. Lui-même va se convertir un peu plus tard. C'est pas encore une religion officielle, c'est un peu plus tard qu'elle va devenir une religion officielle, Jean-Pierre Moisset.
Voilà, Constantin, au début du 4e siècle, met fin aux persécutions. Le christianisme est autorisé. Le paganisme continue à l'être naturellement, et d'ailleurs Constantin est à la fois le grand pontife de la religion païenne et puis un homme qui se fait baptiser à l'article de la mort, donc qui se convertit. Mais c'est seulement avec Théodose, à la fin du 4e siècle, donc deux générations plus tard, que le christianisme devient la religion officielle et une religion exclusive, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le paganisme va être interdit dans l'Empire. Et le renversement est complet, la boucle est bouclée en un siècle. Et c'est le siècle déterminant du point de vue de l'histoire du christianisme. Au 4e siècle, en un siècle, il y a un renversement complet de perspective.
Merci Jean-Pierre Moisset. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire du catholicisme qui a été publiée chez Flammarion. À lire également de nombreux livres, Le catholicisme pour les nuls, des pères John Trigilio, Kenneth Briganti et Pierre Lartigue, publié aux éditions First, Le petit livre des saints, très beau livre avec le portrait illustré de tous les saints, publié chez Larousse, et L'église des premiers chrétiens de Maurice Valéry Radeau, aux éditions Perrin, dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, édité en DVD chez Paramount, La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, disponible en DVD chez Universal Pictures, Covadis de Mervyn LeRoy, édité en VHS chez Warner, et enfin Fabiola d'Alessandro Blasetti, édité en VHS chez Film Office. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lydwine Caron et Ludovic Asselot, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Bertrand Chaumeton.